Bonjour à toutes et à tous. Écho de ma commune et de mon canton vous est présenté aujourd'hui par votre serviteur Christophe Jubien. Nous avons 3 sujets au menu. Je vais donc vous les présenter très brièvement. Il sera question de vidéoprotection, de la création d'un poste au sein de Chartres Métropole, un nouveau poste de secrétaire itinérant. Nous irons à la rencontre de ce nouveau secrétaire itinérant. Et puis, nous évoquerons le label Éco Défi en compagnie de Florent Gauthier, vice-président de Chartres Métropole en charge du développement durable. C'est parti. Le centre de supervision intercommunal de Chartres Métropole a été inauguré mardi soir. Ce centre récupère les images des 500 caméras installées dans l'agglomération. Il est notamment équipé de 12 écrans affichant une mosaïque des images transférées par les caméras. Ce nouveau centre est partie prenante du contrat de sécurité intégrée de Chartres Métropole établi pour renforcer la sécurité à l'échelle du territoire, à l'échelle supracommunale et en collaboration avec les forces de la police nationale et de la gendarmerie. Des explications de Richard Lizuret, vice-président de Chartres Métropole en charge de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Au fait, doit-on dire vidéosurveillance ou vidéoprotection ?
Alors, on dit vidéoprotection parce que ça concerne la surveillance et la protection de la voie publique, du citoyen sur la voie publique. La vidéosurveillance, c'est quelque chose qui est destiné à protéger des périmètres d'infrastructures privées. Donc là, on parle de vidéoprotection. On parle de vidéoprotection sur l'ensemble d'une agglomération qui compte donc 66 communes, qui ont souhaité mutualiser leurs dispositifs, puisqu'il y a déjà des dispositifs de caméras existantes dans différentes communes. Il y a déjà des centres de supervision. 2 communes avaient un centre de supervision, Lucé et Chartres, et tout ce dispositif va être regroupé ici sur Chartres, dans le centre de supervision intercommunal. On va passer globalement de 150 caméras qui étaient sur Chartres à 450-500 caméras à veiller, donc avec 8 opérateurs qui sont là pour vérifier que tout se passe bien et pour signaler les événements et signaler aux forces de l'ordre, puisqu'il y a des renvois qui sont faits vers la police nationale et vers la gendarmerie nationale. Donc c'est un outil en fait à destination de la sécurité du citoyen, qui nécessite, au-delà de l'image, une veille technologique et une veille opérationnelle. L'image toute seule ne sert à rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière, qu'on sache qui alerter, à quel moment alerter et quoi faire.
Il faut savoir lire les images aussi, parce qu'on ne va pas alerter tout le temps au moindre soupçon de...
Absolument, il faut savoir lire les images. Alors ça, c'est la professionnalisation des agents du CSI. On considère que globalement, il faut 1 an pour qu'un agent soit vraiment opérationnel, connaisse un peu son écosystème, puisque effectivement chaque ville a son écosystème, son biorhythme, avec des événements, le week-end, avec dans la journée aussi, des moments où le matin c'est les écoles, le midi c'est l'aller-retour chez soi, le soir c'est plutôt les gens qui reviennent du travail, et tout ça c'est des choses qui doivent être appréhendés par ces opérateurs qui effectivement doivent pouvoir alerter en cas d'événement anormal. Alors on les aide avec une application qui leur permet de discriminer ou en tout cas d'être alerté en cas d'événement anormal. On a considéré que globalement, dans la journée, c'était important jusqu'au soir, avec évidemment un effort la nuit, le week-end. Puisque le week-end, il y a quand même des événements jusqu'à 3h du matin, donc on a des ouvertures jusqu'à 3h du matin, et bien entendu, en cas d'événement particulier, le CSI réouvre, soit la nuit, soit le week-end. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des amplitudes de 7h à 21-22h en début de semaine, jusqu'à 3h du matin en fin de semaine. S'il se passe quelque chose la nuit, en toute hypothèse, toutes les caméras enregistrent les images. C'est-à-dire que même s'il n'y a personne derrière, vous avez d'abord la police nationale qui a un dépôt d'images, donc ils peuvent prendre la main, la gendarmerie nationale demain également, mais surtout, on enregistre les images et on les conserve, on va les conserver 15 jours. Donc là, à disposition des forces de l'ordre en tant que de besoin.
C'est un outil intéressant pour les enquêteurs aussi de la police, évidemment. Mais la durée de vie 15 jours, finalement, c'est assez peu quand même, non ?
Alors c'est une durée qui effectivement est assez peu, on peut aller jusqu'à 30 jours. Bon, après le problème c'est que plus vous le gardez longtemps et plus ça nécessite des espaces de stockage. On pense aussi à l'empreinte écologique, et le numérique doit être écologique, et donc de ce côté-là, 15 jours ça paraît raisonnable dans une agglomération comme celle de Chartres. Parce que les enquêteurs de la police, les enquêteurs de la gendarmerie savent que ça existe, dès lors qu'il y a un événement important, appellent tout de suite, de manière à ce qu'on sécurise les images, et ensuite, dès lors qu'ils ont les réquisitions qui vont bien, en fait, on leur donne les images. Donc aujourd'hui, 15 jours, ça paraît raisonnable pour une agglomération comme Chartres.
Alors, la culture de la vidéoprotection, elle est inscrite aujourd'hui un peu partout. C'est-à-dire, je me souviens que les premières caméras de vidéoprotection avaient soulevé des tollés de la part de certains élus autrefois. Maintenant, toutes les villes de l'importance de Chartres en ont.
Alors, toutes les villes n'en ont pas. Il y a des villes qui n'en ont pas. Alors, je ne vais pas en citer, mais il y en a. Dans l'Ouest, notamment. Hein, certaines villes, d'ailleurs, n'ont même pas de police municipale. Hein, dans l'Ouest, vous les trouverez. La vidéoprotection, c'est vrai qu'au départ, c'est comme toute innovation, comme toute nouvelle technologie. Il y a une méfiance. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. ChatGPT, ça inquiète tout le monde, ainsi de suite. Tout ce qui est transformation numérique, transformation technologique, c'est des choses qu'on a du mal à appréhender parce que c'est virtuel en fait. Et donc la vidéo, c'est aussi au départ une crainte d'une intrusion dans la sphère privée. En fait, on peut me voir ce que je fais, on va me surveiller. Ce n'est pas du tout l'objectif. D'ailleurs, quand vous venez visiter le centre, le nôtre et d'autres, en fait, vous avez toute la partie privative qui est floutée. Vous ne pouvez pas, les opérateurs n'ont pas le droit de voir tout ce qui est du domaine privé. Donc ça a levé aussi un certain nombre d'obstacles. Et puis c'est vrai qu'il y avait aussi un peu de dogmatisme. On ne veut pas de vidéo par principe, ainsi de suite. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le citoyen s'y retrouve. D'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui nous demandent de mettre des caméras devant chez eux. Alors pour le coup, on ne peut pas. Parce que ce n'est pas un objet privatif. C'est encore une fois quelque chose qui doit se mettre en place sur la voie publique pour l'intérêt général. Donc je crois que le sujet, effectivement, c'est plus un sujet de principe, c'est simplement un sujet, encore une fois, de volume. Il ne s'agit pas de mettre des caméras partout. Ce n'est pas du tout l'objectif.
Question, ce système est-il équipé pour parer d'éventuelles cyberattaques? Écoutez la réponse de Richard Lizuri.
Il y a des craintes au niveau cyberattaque, c'est une crainte permanente. D'ailleurs, dans ma délégation, j'ai également la cybersécurité. Il se trouve que toute la partie vidéo protection de l'agglomération est utilisée et transmise en termes d'image par un dispositif de fibre qui nous appartient, une fibre propriétaire, donc c'est la Cémine qui est l'opérateur de cette fibre, et évidemment cette fibre est sécurisée parce que la cybermenace elle est constante, et puis les gens qui viennent voir la vidéo, qui viennent hacker la vidéo, c'est généralement pas pour de bonnes intentions, donc c'est encore une fois un souci permanent. Et c'est un travail constant pour vérifier que nos dispositifs soient bien sécurisés au quotidien.
C'était Richard Lizuré, vice-président de Chartres Métropole, en charge de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Chartres Métropole, si l'hétérogénéité des communes membres de l'agglomération chartraine fait la richesse du territoire, elle met aussi en relief des disparités de moyens. Chartres Métropole y a apporté depuis plusieurs années des compensations par le jeu de transferts de compétences et de conventions de mutualisation de services et renforce encore en 2019 cet esprit de solidarité en créant un portefeuille de services au sein d'une mission d'appui aux communes. Ce dispositif propose 4 options, l'appui juridique, l'appui ingénierie, l'appui mise à disposition de matériel et l'appui secrétariat de mairie itinérant. Nous avons rencontré le secrétaire de mairie itinérant de Chartres Métropole, Jérôme Buard. Il nous parle de ses compétences.
C'est de l'accompagnement des élus dans la mise en œuvre de leurs orientations et de leurs programmes politiques. C'est de l'urbanisme, c'est de la comptabilité, c'est de la ressource humaine, c'est du funéraire, c'est du budget, c'est un petit peu tout ça.
Voilà, vous avez choisi la difficulté parce que vous êtes le secrétaire de mairie de 66 communes. Vous allez naviguer entre ces 66 communes. Vous avez préparé comment ce nouveau poste?
Il faut ne pas paniquer. Il faut savoir être mobile et puis surtout, il faut avoir un sens du service public à toute épreuve. Lorsqu'on arrive là où les collectivités sont en difficulté, donc souvent on arrive, on est toujours très bien accueilli parce qu'on arrive pour régler une difficulté, mais c'est forcément devoir s'adapter à des nouvelles personnes, à des nouveaux modes opératoires, à des nouveaux locaux, à une nouvelle organisation. Donc voilà, ne pas paniquer et puis se dire que de toute façon, les choses vont bien se passer.
Alors, si Chartres Métropole a choisi de créer donc ce poste de secrétaire de mairie itinérant, c'est tout simplement parce que les communes aussi ont du mal à recruter des postes de secrétaire. Plus personne ne veut le faire.
Du point de vue national, on en parlait, les collectivités et les maires en fait ont de plus en plus de mal à recruter des secrétaires de mairie. D'abord parce qu'il y a un renouvellement un petit peu générationnel, mais aussi parce que le poste de secrétaire de mairie, il est tellement vaste du point de vue discipline que les candidats ont tendance à se faire rares ou parfois même en fait à avoir un petit peu peur de ce genre de poste, ce qui crée du coup un certain délai entre les départs et les arrivées, et c'est pourquoi on est là.
Alors, ce poste de secrétaire donc va vous conduire dans un bon nombre de communes de Chartres Métropole, mais pas toutes, parce que au-delà de 5000 habitants, c'est fini.
En effet, un secrétaire de mairie, c'est un poste unique dans les communes jusqu'à 2000 habitants, mais les collectivités au-dessus de 2000 habitants, bien souvent, n'ont pas des services en doublon, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un seul agent de quelque service que ce soit, et quand cet agent-là vient à manquer, il n'est pas forcément facile de le remplacer, avec les forces en présence en tout cas, et c'est pour ça qu'on peut aussi intervenir en renfort au sein des services pour ce genre de mission, parce que la pluridisciplinarité d'un secrétaire de mairie fait qu'il peut s'adapter aussi sur ce genre de poste.
Vous avez intégré ce poste au mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que donc il y a eu 10 demandes qui ont été effectuées depuis le mois d'octobre. Quelles ont été vos missions?
L'appui aux communes est intervenu au sein de plusieurs collectivités. Il y a eu Bouglinval, il y a Fontenay-sur-Eure, Maintenon, Chartainvilliers, pour des raisons diverses et variées, mais pour pouvoir apporter un service. Ça a apporté sur de la comptabilité et puis après aussi bien sûr sur tous les aspects classiques d'un secrétaire de mairie, RH, paye, urbanisme, etc.
Alors, ces missions, elles sont tarifées, hein, par contre.
En effet, il y a un tarif qui est appliqué pour la mise à disposition par demi-journée ou par journée complète pour pouvoir faire vivre le service en fait, à des tarifs quand même défiant toute concurrence, dans le sens où l'objectif c'est pas de faire du bénéfice ou de générer de la recette, c'est vraiment d'apporter un service aux collectivités, y compris enfin et surtout les plus petites du territoire, ce qui représente une large proportion des collectivités de Chartres Métropole.
C'était Jérôme Buard, secrétaire itinérant de Chartres Métropole.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, l'aine du vieux ferré, les cris, la tempête, Boris Vian, ça s'écrit. Soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Montparnasse, Miles Davis qui sonne, Sagreco, tous les Morrison, le Nico. Rive gauche à Paris, oh mon île, oh mon pays, de musique et de poésie. D'art et de liberté éprise, fait prendre, elle est prise. Elle va mourir quoi qu'on en dise. Et ma chanson la mélancolise. La vie c'est du théâtre et des souvenirs, mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des Arts. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, adieu le jazz, adieu la nuit.
National Éco-Défi a été lancé en 2008. Son objectif est de sensibiliser, accompagner et valoriser les artisans et les commerçants aux enjeux liés au développement durable. En réalisant des défis, les entreprises qui s'engagent s'orientent vers l'éco-responsabilité. Le lancement de l'opération 2023 des Éco-Défis vient d'être lancé. Des explications de Florent Gauthier, vice-président de Chartres Métropole en charge du développement durable, et de Julien Chéron, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loire.
Alors, le but pour la CMA, bien sûr, c'est de sensibiliser, comme on le dit à chaque fois, les entreprises sur l'environnement. L'environnement sur beaucoup d'axes, des petites actions liées à beaucoup de thématiques comme déployées dans le programme des éco-défis, où c'est, il est sûr que les artisans se retrouvent dans l'économie d'énergie, dans le recyclage, dans la prise de conscience avec les salariés également.
L'efficacité finalement dans le métier n'y perd en rien, j'imagine.
Ah non, pas du tout, bien au contraire. Puisqu'on parle d'économie, on parle d'économie aussi financière. Donc ce n'est que du plus pour l'employeur et l'entreprise en général. Alors pour les inciter, il y a ce fameux label Éco-Défi où nous allons envoyer des candidatures ou faire appel à candidature, donc grâce aussi à Chartres Métropole et vous, le relais de la presse pour mettre en avant ce cycle des Éco-Défis. Et puis les artisans seront accompagnés par une personne de la Chambre des métiers pour la mise en œuvre de ces actions. L'artisan remplit sa candidature et puis après nous étudions et nous accompagnons l'artisan tout au long de la démarche.
Alors, Chartres Métropole a intégré le dispositif en 2013, évidemment pour promouvoir le développement durable. Vous êtes, on va dire, le garant ici pour Chartres Métropole. Ça vous paraissait évident de rejoindre ce dispositif ?
Ah oui, non, mais tout à fait. Et puis, c'est, comme vous le disiez, alors aujourd'hui, c'est intégré dans le cadre du plan climat air énergie territorial qui a été adopté en janvier 2021. Mais vous le mentionniez, ça date de 2012 et donc en 2013, première mise en place. Donc, aujourd'hui, ça va de soi et c'est vraiment un projet que nous allons continuer de soutenir parce que au niveau de notre territoire, on a énormément de choses qui sont faites liées au développement durable, et notamment par nos commerçants et nos artisans. Et il faut le mettre en valeur. Et on le dit souvent, en fait, les habitants sont de plus en plus regardants sur les actions et la prise de conscience, en fait, de leurs artisans et de leurs commerçants. Et mettre en valeur notre territoire, mettre en valeur nos artisans, nos commerçants, dans le cadre du développement durable, c'est quelque chose qui, pour nous, va de soi.
150 commerçants artisans aujourd'hui, je crois, sur le territoire de Chartres Métropole.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc 150 artisans, donc et ça continue. On voit que de plus en plus d'artisans et de commerçants souhaitent participer. Et donc c'est pour cela que cette année, nous avons décidé d'étendre en fait ces éco-défis pour l'ensemble du territoire de Chartres Métropole, donc au niveau des 66 communes qui composent notre territoire. Nous, on souhaite qu'il y ait le maximum d'artisans et de commerçants qui participent. Pourquoi ? Bah parce que c'est les mettre en valeur. Donc, on n'a pas du tout peur. Au contraire, on souhaite qu'il y en ait un maximum.
Ah, je crois qu'il y a 10 thématiques, Julien Chéron, qui sont proposées donc aux artisans et commerçants. Ça veut dire qu'on peut concourir dans l'une ou l'autre ou dans plusieurs ?
Alors, le but étant de répondre, pour avoir le label, de répondre aux 10. Voilà, je ne sais pas si on peut les citer, mais quelques-unes, la prévention des déchets, la gestion des déchets, le rejet est fluide, l'énergie, les éco-produits, le transport, j'en ai d'autres, la biodiversité, le numérique, l'économie circulaire et la RSE.
C'est quand même un sacré boulot, là, du coup. Si on doit répondre aux 10 thématiques, c'est un sacré cahier des charges.
Alors, c'est un gros cahier des charges, mais comme ils sont très bien accompagnés par la CMA, le défi est simple à relever. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde et la prise de conscience salariale est importante aussi dans cet objectif.
Voilà. Il y a trois étapes, diagnostic, il y a un suivi ensuite et la labellisation. Quels sont finalement les critères d'obtention du label ?
Alors, les critères d'obtention, ils sont définis justement en respect de ces 10 procédures. Un cahier des charges est rempli et puis après, il y aura un comité qui va se regrouper pour voir si tous les critères sont respectés, ont répondu à tout ce qui était demandé par ce label. Et une fois que tout a été respecté, le comité se réunit et délivre ce label éco-défi à l'entreprise.
Alors vous-même, vous nous avez dit tout à l'heure, vous êtes un garage. Vous avez décidé d'adopter pour vous-même, évidemment, ces bons réflexes. Ça va de soi, c'est facile à proposer. Est-ce qu'il faut un petit peu l'imposer parfois ? Comment ça s'est passé pour vous ?
Alors, moi, c'est une entreprise que j'ai repris il y a un an, qui avait déjà cette démarche il y a 8 ans. Et pour en avoir parlé avec mon prédécesseur, lui avait trouvé contraignant la mise en place. Et petit à petit, s'est dit, mais en fait, c'est génial, j'aurais dû le faire avant. Moi, je reprends là cette activité. J'avais déjà cette politique et ces gestes du quotidien pour essayer de gérer au mieux nos déchets, nos économies. Et puis, la crise énergétique faisant, je pense que c'est aussi du bon sens.
Finalement, c'est des petites choses. Vous disiez, fermer la porte du garage quand il y a le chauffage, ça paraît évident, mais on n'y pense plus.
C'est ça. C'est des petites choses bêtes. C'est de couper le robinet, mais comme le matin quand on se lave les dents ou se savonner sous la douche, exactement pareil. C'est des petits gestes simples qu'il faut reprendre et expliquer, quelquefois marteler, mais c'est très simple et c'est de la base, on va dire. C'est de la base. Mais aujourd'hui, on en a besoin.
C'était Florent Gauthier, vice-président de Chartres Métropole en charge du développement durable, et Julien Chéron, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loire, au sujet donc des éco-défis. Voilà, cette édition d'Écho de ma commune et de mon canton s'achève. On se retrouve bien évidemment dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez réécouter cette émission évidemment en visitant notre site. C'est donc www.radiorentiel.fr et l'émission c'est Écho de ma commune et de mon canton. Excellente fin de journée à toutes et à tous. À dans 4 semaines.
Sur le bord de la rivière, il y avait des illusions dans ma main que tu laissais sous ton pullover. De mal penser la faiblesse de n'avoir pas fait d'études.
les chansons de ma jeunesse et de Robert Zimmerman. L'altitude, oh, des regrets, oh, des regrets, des regrets, des regrets. J'ai perdu mon allégresse sur des bateaux de conquête. J'ai perdu par leur vitesse quelque chose que dans mon cœur je regrette. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. Citroën, où sont les gens dedans de mon baptême latin bal d'argent? Je voudrais que tout revienne alors que tout est passé. Et je chante à perdre haleine que je n'ai que des regrets, des regrets. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets.
Casquette marine, une vareuse de pêche. Il chante sa plainte bleu marine, la bouche sèche. Le bleu qu'il met dans sa vodka, ça lui rappelle tous les jours réduits avec La Rochelle. Il voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées. Les coffres oubliés, les sirènes, les belles sournoises, les grands voiliers. La ville promène en Seine-et-Oise dans sa cime carrouillée. J'aurais dû y avec La Rochelle. On voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés, les sirènes, les belles sournoises, les grands voiliers. Mais la vie nous promène en Seine-et-Oise dans
ce Simca rouillé. On voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers, mais la vie.